Nous allons poursuivre avec la communication qui suit avec Rimtaga Gapsi de l'université de Jeldouba en Tunisie. Aujourd'hui, ce qui vous intéresse sera ce que vous appelez le printemps du cinéma arabe, une identité à retrouver entre désirs de créations originales et dérives inattendues.
Merci. Je tiens d'abord à remercier tout le monde des organisations d'être ici. C'est vraiment une très très belle ville que je vais découvrir avec plaisir. Donc, je commencerai ma communication par une citation. Donc, comme dans toutes les dictatures, les caméras ne sont pas les bienvenues. C'est Katia Jarjoura qui a dit ça, réalisatrice de Goodbye Mubarak, dont je vais parler dans ma communication. Ensuite, je vais citer aussi un spectateur d'un des festivals du cinéma arabe qui a dit « Jamais comme aujourd'hui, le cinéma n'a été autant utilisé comme une arme de résistance. » Une petite précision par rapport au choix de mon titre avant de commencer, je vais évoquer le printemps du cinéma arabe, et non pas le printemps arabe au cinéma. J'ai voulu montrer les révolutions et les manifestations populaires, aussi bien qu'un souffle nouveau dans le cinéma, en lien ou parfois sans lien direct avec les événements. J'essaierai d'aborder plusieurs films et documentaires autour du printemps du cinéma arabe. D'ailleurs, je parle de cinéma arabe et il y aura dans mon exposé des films marocains, tunisiens, syriens, un film yéménite, un film libanais et des films égyptiens. Je n'évoquerai pas seulement des films issus de la révolution, mais j'aborderai aussi des films prémonitoires et esquisse déjà l'époque post-révolutionnaire de ces événements historiques. Donc, l'expression du monde arabe, bien qu'assez largement utilisée, est source de nombreux débats. Et donc, comme je vais parler d'identité, je vais aborder trois volets essentiels. Le volet social, le volet religieux et le volet politique. Filmer la dictature, filmer la révolution, au Liban, en Tunisie, en Égypte, en Syrie, en Algérie, au Maroc ou au Yémen, des cinéastes ont filmé l'aspiration des peuples à la liberté, mais aussi des sociétés figées et gangrenées par la corruption, l'aliénation et les pesanteurs religieuses, un cinéma lucide, courageux, souvent et parfois tourné dans l'urgence. Un cinéma coup de poing fait d'images rares, tournées avant ou après les révolutions arabes, qui ont mis à mal des dictatures ancrées depuis des décennies. Fait notoire, et que je vais signaler, beaucoup d'œuvres sont réalisées par des femmes, ce qui n'est sans doute pas un hasard. Il est à souligner l'importance des images, celles tournées à chaud avec des téléphones portables, ma camarade tout à l'heure en parlait, celles tournées à chaud qui ont contribué à lever la chape de plomb. Des jeunes, des citoyens se sont substitués aux journalistes et aux documentaristes, devenant les grands témoins des événements. Mais les cinéastes étaient eux aussi à pied d'œuvre et depuis longtemps. On n'a sans doute pas assez prêté attention à eux. Leurs images parfois brutales épousent la parole qui se libère trop longtemps étouffée. Leurs travaux sont si précieux qu'ils méritent d'être vus. Et c'est bien là l'un des mérites de cette révolution. D'ailleurs, les petits courts-métrages ont leur nouveauté spécifique à tout ce qui se passe sur Internet par rapport aux autres films de la Révolution. Parce que contrairement aux documentaires et aux films sur la Révolution dont on a du mal à accéder, des petits films comme ça tournés par des jeunes dans la rue, ils circulent très facilement sur Facebook. Donc les petits courts-métrages ont leur nouveauté spécifique à tout ce qui se passe sur Internet par rapport aux autres films de la Révolution. On sent qu'ils sont sur le terrain, proches de ce qui vient de se passer. Ils sont dans l'immédiateté de l'action. Cela se reflète dans leur façon de filmer. Cela se reflète dans les visages qui sont filmés de très près, et j'espère que je pourrai vous montrer quelques séquences, dans des cris de colère ou des cris de joie. Il y a quelque chose entre les cinéastes qui filment et les personnages réels filmés qui ont vécu cette révolution. Il y a une forme de promiscuité, comme une grande complicité entre le cinéaste et l'acteur, qui est l'acteur et l'auteur de la révolution en même temps. Donc je commencerai par un court-métrage tunisien qui a été achevé en décembre 2010, mais avant l'immolation de Bouazizi. Ce court-métrage qui s'appelle Son plan, fait référence en fait à un genre d'essence son plan. Et en fait, le documentaire commence par un jeune qui va acheter un jerrycan d'essence, il le remplit, il va à son travail et il menace le patron. J'aimerais vraiment vous la montrer plus tard, parce que c'est un point de vue, je ne peux pas montrer les films en même temps que je parle, autrement ça aurait été bien. Mais en fait, on voit le jeune avec le jerrycan d'essence, il va dans la société où il travaille parce qu'il vient d'être licencié, il s'arrose de cette essence et il se met à hurler, à crier le nom de son patron. Et donc, le patron, ils sont tous là, bien sûr tous les ouvriers, il y a une émeute, Et tout le monde, non, ne fais pas ça parce qu'il a le briquet à la main. Et en fait, l'image d'après, donc c'est vraiment le chaos, et l'image d'après, on voit le même jeune qui a repris son travail. Bien sûr, comme il a menacé de se tuer, donc on lui a rendu son travail. Et la dernière image du film, en fait, ce sont des dizaines d'ouvriers de la même usine qui font eux-mêmes la queue avec chacun, soit une bouteille d'eau en plastique, soit un jerrycan, et qui vont menacer aussi de stimuler par le feu. Mais voilà, ça s'arrête en fait quand ils font la queue à la station-service, mais on devine ce qu'ils vont faire, parce que c'est les mêmes visages en fait qu'on retrouve. C'est un documentaire qu'on trouve facilement sur Internet, il suffit d'écrire simplement le réalisateur Cécile Kelly, et vous y accéderez vraiment facilement. Et c'est vraiment c'est la prémonition, je veux dire, de la révolution. Donc voilà. Donc Urgence sociale, c'est aussi le propos de Sur la planche, un film franco-marocain atypique signé Leïla Kiteli. Il a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et je cite l'actrice principale : Je suis sur un tremplin au bord d'un plongeoir. Je suis en avance sur la vérité, la mienne. Et là, c'est l'actrice principale qui parle. Et ces mots-là sonnent comme des rafales de mitraillettes. Donc, dans ce film, on retrouve l'histoire de quatre filles crevettes, comme elles aiment à se désigner, employées dans une usine de pêche à Tanger. C'est pour ça que c'est des filles crevettes. Puis, dans le textile, elles brûlent la vie par les deux pour en se rendre dans la nuit, dans les maisons d'hommes puissants, bravant les interdits pour arracher un sort meilleur. Celui-là aussi est accessible assez facilement. Donc là, vous avez la fiche du film avec l'actrice principale. Parallèlement, sa compatriote Dawes Aydin met en scène avec Confession Nocturne une prostituée qui parle du rapport à son corps, du plaisir, de l'argent. Mariée de force, elle raconte avoir souffert depuis l'enfance d'une société cruelle. C'est toujours cette société cruelle qui est mise en avant dans les films et des mauvais traitements. Son époux l'a torturée, dit-elle, en implorant le pardon de sa mère. Un récit en voix off sur des images nocturnes où les phares d'une voiture éclairent des insectes dans un square à la végétation luxuriante, puis un banc, un lampadaire, des palmiers, peut-être un meilleur lendemain. Donc du Maroc, je passe à la Tunisie. Un autre court-métrage tunisien, Tiraillement, Haïra, de Najwa Limem Slema, montre avec humour, et là la dimension de l'humour dont parlait Sonia, elle regrettait, donc je vais en parler. Donc l'humour est important dans ce contexte un peu, voilà, c'est déjà la prémonition de la révolution. Donc Najwa Limem Slema montre avec humour l'exaspération des femmes. Il est question de deux sœurs, l'une voilée et l'autre émancipée, qui sort en boîte de nuit. Le prétendant de la seconde, hypocrite, finit par demander la main de la plus sage, donc de la voilée. Or que les deux filles inventent alors un stratagème dans la cuisine et décident d'inverser les rôles. Devant les parents ébahis, la plus moderne sort donc de la cuisine, drapée du voile de sa sœur, et refuse l'offre malhonnête du monsieur, disant lui préférer un homme vierge. Donc là, c'est l'extrait dans la cuisine, en fait, quand elles sont en train de comploter, et elle dit « Les apparences, c'est le match vu pour madame et son mari. » Donc là, c'est l'émancité qui part, et elles étaient d'abord leur stratagème. Donc toujours en Tunisie, vivre de Wolitaya montre, à contrario, une jeune fille à la vie monotone, partagée entre sa vieille tante pieuse chez qui elle loge et son travail harassant et sous-payé dans un centre d'appel délocalisé. Une vie qui semble figée à tout jamais et dictée de l'extérieur. Nos étés aussi de Mortal Larjimi démontre aussi les multiples facettes de l'oppression au quotidien. Donc c'est toujours cette oppression sociale qui a mené vers la révolution. Parce que ça, ce sont des documentaires et des films qui sont arrivés avant, et celui de Walid, juste avant la révolution. Donc c'est l'oppression sociale qui a vraiment mené à la révolution. Donc l'oppression au quotidien. Hamid, jeune journaliste, subit la censure dans le journal où il essaie d'être embauché, et le chantage affectif de sa famille qui veut le marier de force. Un sujet récurrent qui embarrasse aussi les hommes, à une jeune fille dont le père est au cœur d'un trafic d'antennes paraboliques, celui-là même que Hamid dénonce à longueur d'article. Et en fait, Hamid est amoureux de sa collègue un peu trop émancipée, qui n'est pas au bout de ses parents, qui est Sarah. Et voilà, tout le film, en fait, c'est le tiraillement de Hamid entre Sarah et Rim, celle qu'on lui propose de se marier avec. Donc, de la Tunisie, je passe au Yémen. Et là, je vais aborder un peu l'univers carcéral dont on a parlé hier matin. Donc cinéma, vérité, choc des images garanties au Yémen avec cette œuvre coup de poing signée Khadija Salehi, et Mina ne peut laisser personne indifférent. La réalisatrice part à la rencontre d'une femme au destin tragique, mariée de force à 11 ans dans un village aux coutumes ancestrales, et Mina accusée d'avoir tué son mari et condamnée à mort. Enfant au bras, elle crie à l'aide d'une voix rauque derrière les grilles de la prison de Sanaa, où elle attend d'un jour à l'autre son exécution. Avec elle, dans le couloir de la mort, elles sont nombreuses à avoir subi la loi patriarcale la plus brute. Et la loi patriarcale, je vais en parler un peu plus en profondeur maintenant que le Maroc. En mars 2012, Emine Alfileli, une Marocaine de 16 ans, se suicidait avec de la mort au bras, après avoir été contrainte d'épouser son violeur. Un an après, le réalisateur Nedjel Bouhmouch revient dans un film intitulé « 475, quand le mariage devient châtiment » sur ce drame et montre qu'il va au-delà d'un simple problème de code pénal. Donc je passe sur la loi, vous pouvez la trouver là. Donc c'est l'article 475, d'où le nom du film. Là où les grandes chaînes de télévision comme Al Jazeera, TF1 ou CNN se sont focalisées sur le code pénal et ses conséquences désastreuses, le jeune réalisateur dresse un tableau plus profond de la société marocaine. La loi 475 n'est pas la source du problème, et là je le cite, il s'agit plutôt du système patriarcal. Les médias ont une approche simpliste, ils ont semblé occulter plusieurs éléments, notamment le fait qu'Emine n'a pas été forcée de l'épouser, mais qu'elle a choisi de le faire à cause du système patriarcal. C'est ce qu'il dit Nedjel Bouhmouch. Pour dénoncer la condition féminine au Maroc, Nedjel Bouhmouch a choisi de diffuser gratuitement son film sur Internet, donc vous pourrez le trouver facilement. Des projections et des débats sont également organisés un peu partout dans le monde grâce au relais de plusieurs associations. Pour le jeune homme, le cinéma est une action militante et une forme de désobéissance civile. Donc son documentaire n'a pas pour objectif de faire changer l'article 475 comme les médias étrangers l'ont voulu, il préfère contribuer à faire évoluer les mentalités. Je le cite, « Le premier pas pour nous libérer de ce système patriarcal, c'est de le reconnaître et d'enseigner aux futures générations combien il est mauvais. Il est difficile pour les autorités et pour la plupart des Marocains de s'en débarrasser, car très souvent il nous a été transmis par notre famille. » Donc je passe à Goodbye Moubarak, c'est une enquête journalistique sur l'Égypte de la canado-libanaise Katia Jerjoura. Ouvertement politique, elle a été tournée en octobre 2010 lors de la campagne des élections législatives. Elle décrit avec plus ou moins de précision les forces en présence, y compris syndicales et religieuses, des musulmans coptes et politiques. Les militants de Mohamed El-Baradei, un démocrate, sont régulièrement arrêtés comme ceux des frères musulmans, dont l'ancrage est plus ancien. L'enquête ne va pas jusqu'à explorer leurs liens, sans doute solides, avec les militaires. La journaliste dont le travail a été entravé par les Beltaghia, les ministres de l'ancien régime, fait aussi l'impasse sur les courants salafistes qualifiés d'Al-Qaïda. Un tabou que transgresse son confrère Stefano Savona dans Tahrir, Place de la Libération, et dont ma camarade a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc le court-métrage aussi en noir et blanc de l'égyptien Negis Mari, Histoire d'une révolution, Hekayat al-Thawra, découvert sur Internet, lui aussi, s'appuie, lui, sur la magie des mots d'un poème. Cette poésie très importante, et elle va prendre une dimension, la poésie va vraiment prendre une dimension de plus en plus importante dans le cinéma. Donc d'un poème d'Ahmed Haddad pour nous faire partager ce parfum de liberté. Une voix off sur fond notamment d'images, d'archives tirées des actualités égyptiennes résume les faits. Tout le monde était sur la place, les maisons souriaient, et lui disait de ne pas avoir peur. L'espoir l'a réveillé. Puis le sang coule dans les rues, saboteurs minoritaires, comploteurs, bruit de bottes, bannir l'égoïsme, main dans la main, coptes et musulmans. Enfin, j'arrive à la Tunisie, donc pesanteur, intimidation, c'est aussi ce que souligne à sa manière Nedjel Alfileli dans la cité Inch'Allah, qui plaide pour une future constitution en Tunisie basée sur le principe de la séparation entre les instances religieuses et l'État. En fait, elle se filme elle-même en train d'aller voir les jeunes et leur dire. Elle va même aller jusqu'à filmer des jeunes qui ne font pas le jeûne pendant le mois de Ramadan et elle dit non, c'est interdit. Et donc on retrouve un peu cette peur, cette crainte qu'ont encore les jeunes d'être filmés, d'être vus en train de pas faire le jeûne et les conséquences que ça peut avoir. Donc elle fait une violente critique de la pratique du Ramadan devenue obligatoire sous le régime Ben Ali alors qu'il n'était pas sous Bourguiba. Laïcité n'est pas athéisme, rappelle-t-elle à l'envi. Son film fait grand bruit. La réalisatrice a même dû changer son premier titre, qui était « Ni Allah ni Maître », qui choquait les religieux, qui l'ont menacé de mort, envers et contre tous. Elle poursuit son combat pour la libre conscience, à contre-courant, peut-être. Donc, je la cite, « Les Tunisiens sont profondément attachés à des pratiques laïques, et surtout les jeunes, en fait, dans le domaine des jeunes. » Donc là, vous la voyez à l'écran. La religion est d'ailleurs particulièrement présente dans les productions libanaises. Dans Beyrouth, Vérité, Mensonges et Vidéos, la documentariste Maïl Masri, vous l'avez à l'écran, rappelle que le Liban fut aux avant-postes des révolutions arabes. Elle a filmé de l'intérieur le mouvement populaire qui a surgi après l'assassinat le 14 janvier 2005 du Premier ministre Rafiq Hariri, qui avait fait 21 morts collatéraux. Fumée, sirène, corps désarticulé, foule ampleur derrière le cercueil lors des funérailles. La cinéaste nous fait vivre cet épisode tragique à travers le ressenti d'une jeune étudiante démocrate. Comme ses congénères, elle est torturée par le passé, celui de la guerre civile de 1975 à 1990. Jeune et moins jeune, toutes confessions confondues, ont rallié la place des martyrs et réclament le départ des troupes syriennes au cri de vérité, liberté, unité nationale. Ils y resteront 72 jours. Comme en Égypte en 2011, des tentes ont été dressées aux couleurs de différentes tendances, indépendants, mouvements du futur, société civile, force libanaise. Des tentes en conflit rappellent Zayn, une des têtes pensantes de l'indépendance en 2001. Tous cherchent à stopper le dialogue du sang avec les voisins syriens et israéliens, avec le Hezbollah. Puis l'enthousiasme cède la place au doute. S'agissait-il d'un complot? Donc là, c'est le personnage principal. Je vais à présent évoquer des images rares de la Syrie. Essentiellement politiques, certains de ces films, répression oblige, sont le fait de collectifs de cinéastes. D'autres portent la signature d'auteurs courageux, comme dans Ainsi les bottes du général, un film d'animation d'Akram Ara, qui met à nu la dictature, ou encore Des luges au pays du Basque, ou Félix Bled de Basque, réalisé par Omar Amirale, un des pionniers du documentaire en Syrie. Juste avant sa mort, survenue le 5 février 2011, il demandait à un ami, voyant le soulèvement tunisien, quand le peuple syrien va-t-il commencer ? Ça tarde. Son portrait, donc là je vais passer, parce que je préfère passer à d'autres films. Donc là vous avez donc l'image d'un des élèves dans Toufaïn Tibet al-Bass. Donc la répression à la touche du doigt dans le film de Hélène Mohamed pour un petit morceau de gâteau. Dans lequel elle interroge d'anciens détenus qui ont subi toutes les persécutions dans les géoles du régime. Et on retrouve encore l'univers carcéral dans ce film, je vous invite à le revoir. Ou encore dans le film de Hela Abdallah et Ammar Elbir, Je suis celle qui porte des fleurs vers sa tombe. L'imaginaire de la réalisatrice nous conduit subtilement de son exil en France avec son mari peintre, à la Syrie où elle fait parler des amis aux accents refoulés, et jusqu'aux confins de la Turquie chez sa belle-mère en situation précaire. Où on reparle des Ottomans, des Arméniens et même des Syriens. Donc maintenant je vais passer à l'Algérie, si vous voulez bien, je vous fais le tour. Je vous propose à présent d'évoquer On ne mourra pas d'Amel Kett, un des deux films représentant l'Algérie dans ma communication. Il renvoie une image inquiétante de ce pays qui fut, ne l'oublions pas, pionnier en matière de printemps arabe lors des émeutes d'octobre 1988, avant de subir la coupe réglée à la fois des militaires et des extrémistes islamistes. Pays, je cite un extrait du film, pays maudit comme un Doberman qui est la dalle, l'Algérie est foutue, elle a touché le fond, ils nous tuent tous, crache un rapport dans la radio du taxi qui ramène sa ligne de l'aéroport. Ambiance de terreur dans Alger où l'homme revient après 2 mois passés en mer distante dans un immeuble aux portes grillagées à tous les étages, peuplé de plans d'eau, il part en quête d'un tire-bouchon pour ouvrir une bouteille de vin, cuvée Afghanistan en 1991, après l'amour tant attendu avec sa fiancée. Dans l'escalier, un claquement sourd, une exécution, des cris, vous pouvez tous nous tuer, ici le temps n'a rien fait à l'affaire. Donc c'est le début en fait de la révolution. Donc un deuxième film algérien, qui est Normal, donc je vous montre l'affiche, de Mevzet Alwesh. Après les émeutes de décembre et les premières marches pacifiques, alors que le printemps arabe commence en Tunisie et en Égypte, Fawzi veut réunir ses comédiens pour leur montrer le montage inachevé du film qu'il a réalisé 2 ans auparavant sur la désillusion d'une jeunesse qui cherche à exprimer ses idées artistiques. Il cherche un autre point de vue et surtout une fin. Et il compte sur les réactions à chaud des comédiens pour inventer une nouvelle résolution de son histoire. Donc pendant la projection du film, et en fait c'est un film dans le film, pendant la projection du film, le débat s'installe. Quelle est la place de la création en Algérie aujourd'hui? Comment créer sans se confronter à la censure? Comment résister? En réalisant des films en marchant vers une nouvelle révolution. 2 récits s'entrecroisent, fiction-réalité, débat et errance, une nouvelle vision de la jeunesse algéroise d'aujourd'hui en plein questionnement politique et artistique. Donc je vais citer Mevzet Alwesh, ça c'est trop long. Lui, il a eu en fait des problèmes pour diffuser son film en Algérie. Il dit « J'ai eu l'impression d'être quelqu'un qui a commis un crime et qu'il faut punir d'avoir tourné quelque chose. Or, ce que j'ai tourné, c'est simplement un film. » Et là, vous avez l'idée de la censure. Donc je passe après la bataille de Yossi Maslama qui plante sa caméra, lui, dans Place à Tahrir, au carrefour du réel et de la fiction. En fait, c'est les premières fictions maintenant que je vais un peu analyser. Donc, il pose sa caméra, il n'y a pas de scénario. Il met réalité historique et fiction dans le sillage du néo-réalisme. Donc, voilà. Et en fait, il tourne comme ça le film. Je passe à mon dernier film. Donc, Nadine Labaki, libanaise, qui a choisi l'humour pour traiter du conflit entre communautés religieuses qui menacent toujours dans un Liban perdu entre deux guerres, qu'elle résume en deux clans chargés de rancœur, aux mains tachées de sang. Un groupe de femmes habillées en noir, chrétiennes et musulmanes, avancent ensemble vers un cimetière en vaste campagne. Les pas de leur danse macabre ouvrent cette magistrale comédie dramatique franco-libanaise intitulée « Et maintenant, on va où ?». Les rires fusent dans la salle, suivis de lourds silences, car le film démontre les ressorts de la vengeance souvent dérisoire. Il invente des remèdes, ainsi pour rompre le cycle de la violence qu'elle impute à la folie des hommes, les femmes décident de les distraire en faisant venir des prostituées ukrainiennes au village ou encore en leur faisant fumer du hashish pendant qu'elles utilisent leurs armes. Donc je cite Nadine Labaki, « Cette incertitude, cette instabilité dans laquelle nous vivons quotidiennement sont au cœur de ma réflexion de cinéaste. » Donc j'en arrive à ma conclusion. Actuellement, il y a quelque chose qui se passe, qui lie ensemble tout ce monde arabe. Mais chaque pays a sa particularité. Ce qui se passe en Syrie n'a rien à voir avec ce qui se passe en Égypte ou en Tunisie. Les films que nous venons de citer reflètent ces différences. Dans les films syriens d'auteurs confirmés, nous rencontrons un univers carcéral. Ils reflètent aussi la réalité de leur pays. Dans le cinéma égyptien, quelque chose de plus festif est à souligner, la poésie souvent des images et des textes. Dans le film marocain, il y a une réalité dure, mais tellement vivante aussi. Dans le film de Leïla Kilani que j'ai cité, ça bouge, c'est un film très physique et les personnages sont habités par une énergie gigantesque dans la débrouillardise de vivre et de survivre à tout prix. Tout est en train de se faire, le cinéma accompagne et il a un rôle à jouer. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi de terminer notre communication par le film « Et maintenant on va où ?» de Nadine Labaki. Je pense que les cinéastes vont former de nouveaux outils et filmer différemment. Cela commence déjà. On voit qu'il y a déjà une nouvelle écriture. Je pense qu'il y a un avant et un après. Maintenant, ce sont les cinéastes qui vont parler. Nous voulons utiliser les lumières. Nous voulons, c'est une affiche en fait qui a circulé. Nous voulons un monde arabe des lumières en espérant qu'il fasse dégager très très vite cette nouvelle dictature qui nous est imposée par un arabe. Voilà, merci de votre attention.